Jean-Bernard Leroy. Alors que le Soleil est au plus haut de sa trajectoire, je vais donc vous donner quelques mots sur Saint Anselme et l'incarnation. Alors qu'on enseignait dans les catéchismes d'avant la catéchèse, les trois mystères fondamentaux de notre religion sont la Trinité, l'incarnation et la rédemption. Ces trois mystères sont étroitement liés, puisque c'est la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarnée afin de nous racheter. L'incarnation reste un mystère clé, peut-on dire, car il est en quelque sorte la condition de la rédemption. Si le Christ n'est pas Dieu, et, ajoute saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi ne mène à rien. Un des premiers à avoir approfondi ce mystère sans se contenter de citer l'Écriture en y ajoutant quelques commentaires, fut saint Anselme, qui vécut de 1033 à 1109. Né à Aoste d'une famille seigneuriale, il embrassa la carrière des armes vers 15 ans, comme il convenait à un jeune homme de la noblesse. Il entra dans un cloître à 24 ans. Il passa un certain temps à Avranches, dans une école dirigée par le bienheureux Lanfranc, qui fut nommé archevêque de Cantorbéry en 1070, à l'instigation de Guillaume le Conquérant. En 1093, saint Anselme fut à son tour archevêque de Cantorbéry. Il en fut chassé pour avoir résisté aux prétentions du roi concernant les investitures et se réfugia en France. Il revint à Cantorbéry en 1100, avant de subir un nouvel exil entre 1103 et 1106. On n'assassinait plus, mais les disputes entre puissants de ce monde restaient inexpiables. Les frontières étaient plus faciles à franchir que de nos jours. Saint Anselme écrivit de nombreux ouvrages, formant ensemble un vrai cours de théologie. Il fut un des premiers à interpréter le dogme sans s'arrêter à la lettre, afin de donner à Dieu une soumission entière, certes, mais raisonnable et raisonnée. C'est tout le principe de la théologie. Il a écrit sur le péché originel, la prédestination, le libre arbitre. Il a affirmé avec force que nul homme ne sera damné si ce n'est par sa propre faute. Affirmation évidente dans un certain sens, mais malaisée à comprendre de la part de l'intéressé. Il faut prendre conscience que Dieu nous aime, mais demande à être aimé de retour. Or, un amour ne peut qu'être libre. Dieu nous a donné donc le pouvoir exorbitant d'avoir la possibilité de le rejeter. C'est cela la damnation. Le cri de Satan « Je ne servirai pas » est fascinant et pour tout dire effroyable. Saint Anselme a écrit aussi un livre sur la Providence qui a voulu sauver l'humanité en lui préparant un rédempteur. Il a présenté son ouvrage sur l'incarnation entre quatre parts. Premièrement, qui est celui qui s'est fait homme? Deuxièmement, a-t-il pris toute la nature humaine? Troisièmement, comment cela s'est-il fait? Quatrièmement, pourquoi? Examinons ces paragraphes. Qui est celui qui s'est fait homme? En réponse aux gnostiques et aux manichéens qui ne voyaient dans le Christ que l'incarnation d'un esprit secondaire, d'un néant, simple émanation d'une réalité supérieure, on peut citer de nombreux passages de l'Évangile, en particulier de celui de saint Jean. Dans son prologue, qu'il faudrait citer en entier, on peut lire « Et le Verbe était Dieu ». Il était au commencement près de Dieu. Par lui tout a été fait et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme dedans de ce monde. Avant de préciser, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans le discours sacerdotal du même évangile, il répond à Philippe : Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les Juifs d'ailleurs ne s'étaient point trompés, citons toujours saint Jean. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais parce que tu blasphèmes, tu n'es qu'un homme et tu te prétends être Dieu. Ils avaient bien compris. En conclusion, ou bien le Christ est un paranoïaque superlatif, du genre de Caligula qui allait dans le temple de Jupiter pour l'insulter et le menacer de prendre sa place, du moins si on en croit Suétone, ou bien il est vraiment le Dieu d'amour dont parle saint Jean. Deuxièmement, a-t-il vraiment pris la nature humaine? Les hérésies se sont multipliées sur ce mystère. La plus célèbre étant celle d'Arius, qui prétendait que Dieu n'avait pris possession du corps du Christ que lors de son baptême. Pour bien marquer l'événement, une mosaïque de Ravenne dans une église qui fut arienne au Ve siècle représente le Christ avec un sexe ostensible. L'inspiration est détestable, mais l'œuvre est très belle. Pour Arius, la Sainte Vierge n'est plus que mère du Christ et non mère de Dieu. Les monophysites, eux, niaient que le Christ fût en même temps une âme humaine et en même temps une âme humaine en plus de sa divinité. Toutes ces discussions dont j'ai longuement parlé semblaient closes à l'époque de Saint Anselme. Le Christ avait bien un corps humain. Il a eu faim, il a eu soif. Dans son épître, Saint Jean parle de celui que nous avons palpé. Il était fatigué, il était assis lors de son entrevue avec la Samaritaine. Il a pleuré sur la tombe de Lazare, mais il avait aussi une âme humaine, comme en témoigne le récit de son agonie dans Saint Luc, avec ses phrases poignantes « Père, si vous le voulez, éloignez de moi ce calice. Toutefois que votre volonté soit faite et non la mienne. » Ajoutons deux détails moins tragiques. Il était soumis à ses parents, comme le dit Saint Luc, et il avait un nombril. Si ce n'avait été le cas, tout le monde l'aurait constaté au moins sur la croix. Il était vraiment un homme comme nous. Troisièmement, la nature profonde du Christ. C'est en effet le mystère le plus profond. Le Christ s'est fait chair sans cesser d'être Dieu. Il est éternel comme Dieu. Il l'a affirmé. Avant qu'Abraham fût, je suis, dans l'évangile de Saint Jean chapitre 8. Mais il n'est pas éternel comme homme. Comme homme, il est passible. Il peut souffrir, mourir. Nous pouvons dire, le Christ est mort et ressuscité. Pourquoi l'incarnation? Saint Anselme a noté cinq raisons. Après les dires et écrits des prophètes et aussi des sages non-juifs comme Hammurabi, Solon, Socrate, Confucius et bien d'autres, l'humanité avait besoin d'une autorité incontestable. Seul le Christ pouvait montrer à tous la voie du ciel, notre seule vocation. Deuxièmement, le Christ a prêché par l'exemple. C'est même une des principales fins de l'incarnation. Il nous a demandé d'être justes, bons, humbles et purs comme lui. Il nous a donné l'exemple de la miséricorde pour nous encourager à pardonner 70 fois 7 fois. Troisièmement, en raison de la mystérieuse connaturalité que nous avons avec lui, ses mérites nous sont appliqués. Il a pris avec lui tous nos égarements pour en payer la dette. C'est ainsi que Dieu peut être infiniment bon tout en étant infiniment juste. Les mérites de notre Seigneur nous sont appliqués par l'intermédiaire de Marie, médiatrice de toute grâce. Quatrièmement, nous sommes adoptés par Dieu. En unissant notre prière à sa prière, nos vertus à ses vertus, nous formons un tout moral qui assimile nos actes à ceux du Christ et leur emprunte une vertu divine. Quelle est l'opinion de l'abbé Huvelin? Je dois avouer qu'elle me donne le vertige. Cinquièmement, en prenant notre nature, Dieu s'est réconcilié avec l'homme. C'est tout le sens du Felix Culpa que nous chantons au cours de la nuit de Pâques. Si en faisant porter à toute l'humanité le péché d'Adam, il nous a confondus dans la chute originelle, c'est en pleine justice que l'homme-Dieu a pu, en quelque sorte, réparer les dégâts en nous élevant à la dignité de fils adoptif. Satan n'y a rien gagné. Au contraire, nous avons été élevés au-delà de toute espérance et lui a été jeté dehors. Nous ne saisissons que des ombres de cette prodigieuse destinée, mais la présence du Christ, en particulier dans l'Eucharistie, nous donne la certitude que nous ne serons jamais abandonnés, sauf si par quelque folie, nous décidions librement. Saint Anselme a analysé en profondeur le concept de sacrifice. Dans tous les sacrifices de l'Antiquité, dit-il, il y avait une pensée remarquable. Parce qu'il avait conscience de mériter d'être frappé, ils immolaient un animal qui le représentait. Représentait lui qui aurait dû être offrir. D'où les sacrifices humains. La loi juive les a interdits, les sacrifices humains. Mais elle prescrivait l'offrande d'êtres ou de choses servant à la subsistance de l'homme, une partie de lui-même en quelque sorte. L'homme entendait par là offrir une victime le représentant comme hommage à son créateur, au juge qui aurait dû le frapper. Les actes du Christ, qui est Dieu, ont une valeur infinie. L'Épître aux Hébreux le décrit comme le grand prêtre, victime offrante et offerte, chapitres 5 et 10. C'est en vertu de ses mérites que le pardon nous est accordé lorsque le prêtre nous donne l'absolution. Ce sacrement a tendance à être négligé actuellement, ce qui est très dommageable, car c'est grâce à lui que nous pouvons éviter de glisser dans la tentation, comme le disent les versions grecques et espagnoles du Notre Père. Pour terminer cette méditation sur ce grand mystère, je lirai un passage de l'encyclique Gaudium et Spes que notre pape François a cité dans un message de carême 2014. Jésus a travaillé avec des mains d'homme. Il a pensé avec une intelligence d'homme. Il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, semblable à nous, hormis le péché. Je vous souhaite de bonnes vacances puisque l'été approche et même commence à s'installer.